7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quel avenir pour l'industrie textile et le prêt-à-porter en Côte d'Ivoire? La question a de quoi surprendre, tellement le secteur est encore petit. L'économie ivoirienne a longtemps reposé sur le café, le cacao, et désormais la Côte d'Ivoire mise aussi sur trois nouvelles filières porteuses pour l'emploi, le manioc, la noix de cajou et, plus étonnant, le textile et l'habillement. Objectif, rendre ce secteur compétitif à l'horizon 2020. Faire le pari d'un prêt-à-porter africain à destination des classes moyennes et aisées sur le continent. Un prêt-à-porter donc qui mixerait des coupes à l'européenne, des tissus comme le wax, le bogolan ou le basin. À quelles difficultés se heurtent les entrepreneurs qui se lancent dans ce prêt-à-porter dans le troisième pays producteur de coton en Afrique? Charlie Dupio, vous étiez en reportage à Abidjan à l'occasion du festival de mode Zassa. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Vous avez rencontré des créateurs et des petits industriels.
Oui, alors en Côte d'Ivoire, c'est encore surtout de la confection artisanale. On compte 5000 entreprises artisanales dans le pays. Chacune emploie une à cinq personnes. C'est peu. Et au total, le secteur concerne 150 000 à 200 000 salariés. Vous vous imaginez les conditions de travail, rémunération à la pièce, du sur-mesure et bien sûr, aucune collection en série. Et puis, il y a quelques entreprises qu'on peut qualifier d'industrielles. Elles seraient seulement entre 10 et 15 à Abidjan et à Boaké, dans le centre du pays. Elles sont souvent installées dans la cour d'une maison, plus rarement dans un véritable hangar. Et la plupart des créateurs, même s'ils sont reconnus en dehors des frontières, travaillent encore sur un mode vraiment artisanal. Ici, vous l'aurez compris, le prêt-à-porter en est encore à ses débuts, mais certains courageux se lancent, comme Maxime Abondio, trentenaire dynamique. Il a ouvert sa marque de prêt-à-porter Yaimi en 98. Aujourd'hui, Yaimi, c'est 500 mètres carrés de hangar et 20 000 pièces produites par an.
Par là-bas, on a plutôt les brodeurs, et puis on a des grandes tables de découpe un peu partout, et puis derrière, on a les tisserands. C'est le pagne tissé traditionnel baoulé. C'est notre base de travail. Après, on crée des vêtements autour de ce pagne baoulé-là.
C'est une grande surface et vous avez combien d'employés ?
Oh, une grosse cinquantaine. Ici, par exemple, on a une chaîne avec une dizaine de personnes. Et on fait des chemises essentiellement, c'est 80% de la production à peu près.
Alors là, effectivement, on est dans la partie travail à la chaîne où chacun s'occupe d'une partie
oui.
du vêtement.
Oui. Il y en a qui font les cols, d'autres qui font le dos, d'autres qui font les manches, etc., etc. Voilà. Il y en a d'autres, lui, il est dédié au repassage, par exemple. Donc, c'est vraiment une petite chaîne, une semi-chaîne, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment encore industriel, c'est encore semi-industriel. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, spécialisée. Ça n'existe pas vraiment, en tout cas pas dans mon domaine. Et on est obligé de former pas mal, et ça nous perd énormément de temps. Nous, par exemple, on serait prêt à recruter. Là, en ce moment, moi, je suis prêt à en prendre même 10, là, tout de suite. Mais c'est vraiment pas possible, parce que on ne peut pas avoir des gens avec un niveau de qualité acceptable pour nous. Voilà. La formation professionnelle, en tout cas dans le secteur du textile, est quasi inexistante. Donc, en haut, c'est totalement vide. Cette mezzanine que j'ai en haut, je l'ai fait installer il y a quelques mois. Pour anticiper justement le développement, mais pour le moment on est un peu coincé, on est un peu bloqué dans le projet. Parce que j'ai besoin de recruter des gens que je ne peux pas recruter.
Vous produisez combien de pièces par an ici ?
Ça tourne autour de 15 à 20 000 pièces par an. Nos chemises coûtent 30 000 francs CFA, 45 euros.
Qui peut s'acheter vos vêtements ?
La classe moyenne et puis au-delà. La classe moyenne en Afrique est assez importante et elle grandit, elle grossit jour après jour. L'approvisionnement, même en vêtements en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire, je pense doit être 80 à 90% en Chine, malheureusement.
Alors même que la Côte d'Ivoire est un gros producteur de coton, brut.
Ce serait plus évident pour nous qu'on ait tout sur place. Si en plus d'être gros producteur de coton, on était gros fabricant de coton, ça simplifierait beaucoup les choses pour nous. On aurait des sources d'approvisionnement fiables, fiables en qualité. On a un gros flou sur notre approvisionnement en tissu et sur ce qu'il contient.
Il vient d'où ce tissu ?
Ce tissu, il doit venir probablement de Chine, à mon avis. Ils n'iront jamais d'où il vient, mais à mon avis, c'est ça. Donc, les contraintes, elles sont énormes. il faudrait se concentrer sur les créateurs, sur les stylistes qui bouillonnent et qui sont prêts à embaucher énormément de monde pour faire des choses de qualité à plus-value, pour faire en sorte qu'on avance dans l'industrialisation ou pour augmenter nos capacités techniques. Il est évident qu'il faut une vraie implication de l'État et des pouvoirs publics pour justement créer des centres techniques, des centres de formation, qui puissent créer des mesures incitatives pour que les chefs d'entreprise puissent embaucher du personnel et puissent acquérir du matériel un peu plus performant. En ce sens-là, on a vraiment besoin de leur appui.
C'est un appel lancé au gouvernement, Charlie Dupiau.
Oui, aujourd'hui, les autorités ivoiriennes commencent à peine à prendre la mesure du potentiel de ce secteur. On l'entend dans ce témoignage, le manque de formation est criant. On recense seulement 3 établissements publics qui proposent une formation en CAP couture. En 2011, cela représentait seulement 16 étudiants, vous imaginez. Il y a aussi quelques écoles privées où l'on enseigne le stylisme modélisme. Problème, en général, à la sortie de ces filières, les jeunes ne rejoignent aucune entreprise. En fait, ils préfèrent créer leur propre marque. On comprend donc pourquoi aujourd'hui la filière de la confection ne représente que 0,5% du PIB ivoirien.
Ah oui, c'est vraiment petit.
Oui, et c'est 8 fois moins qu'au Maroc, 6 fois moins qu'en Tunisie. Des pays qui ont, eux, misé sur la formation, que ce soit en CAP ou même dans des écoles d'ingénieurs. Donc vous voyez où en est la Côte d'Ivoire, très très loin.
Et pourtant, créateurs, couturiers ivoiriens sont reconnus sur le continent. Je pense à Patéo, à Gilles Touré, à Alfadi, à Angie Bell. Ce sont vraiment des noms qui résonnent dans le monde de la mode tout de même.
C'est vrai, le Made in Côte d'Ivoire est un label qui s'exporte bien, avec une offre abondante. Cette créativité d'ailleurs, on la ressent partout, dans les rues d'Abidjan, dans les tenues, dans les couleurs, dans les styles. On l'a bien compris ici, s'habiller c'est s'embellir. J'ai pu assister à la première édition du festival de mode Zassa. Zassa, ça veut dire patchwork, mélange, en langue d'Ima. Alors c'est le premier festival d'une telle ampleur organisé pendant 2 jours dans la commune populaire de Trècheville à Abidjan, avec des créateurs venus de tout le continent, Mali, Sénégal, Gabon, Nigeria, Maroc, et puis bien sûr des Ivoiriens. L'événement est conçu pour attirer l'attention des médias, bien sûr, mais aussi celle du gouvernement. Avec ce message, la mode peut devenir une véritable industrie. Nous voilà donc dans les coulisses, quelques minutes avant le lancement du défilé qui va durer plus de 3 heures. C'est la grande soirée du festival.
Tu aimes ?
J'aime bien aller.
Tu vois, ça te va plus.
Alors là, vous êtes en train donc de coiffer une mannequin ?
Oui, oui. J'ai peut-être 50 à 60 mannequins à coiffer ce soir, le défilé.
Ça, vous faites quoi comme type de coiffure ?
Alors, c'est une coiffure qui met plutôt le mannequin en valeur. Voilà, c'est beaucoup en hauteur. C'est un chignon d'années 50 et qui est revenu très à la mode en ce moment, à Abidjan. Donc on le fait pendant les grands défilés. On va passer au maquillage maintenant. C'est parfait.
Mais je suis Cissé Moïse, commissaire général du festival Zassamo de Trècheville.
Et alors, il y a combien de créateurs là ce soir qui vont
Ce soir, nous avons une quarantaine de créateurs pour ce soir, avec près de 90 mannequins. Et donc, l'opportunité est donnée à certains donc, de présenter leur collection en prêt-à-porter pour d'autres de monter de la haute couture. Parce que le prêt-à-porter en Afrique n'est pas suffisamment développé parce que les structures qui nous permettraient donc de faire du développement et de la production industrielle n'existent pas encore. Parce que je veux dire, faire du prêt-à-porter, il faut produire beaucoup de vêtements pour pouvoir faire du chiffre. Or, comme nos capacités de production sont très minimes, nous ne pouvons pas produire beaucoup de vêtements. Donc, il est mieux de faire du sur-mesure, faire de la haute couture. Et là, c'est payant. Donc, on se limite pour beaucoup à faire de la haute couture, ce qui leur permet de gagner un peu plus d'argent qu'en faisant du prêt-à-porter.
Bon défilé.
Donc, à tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe là? Il faut qu'on applaudisse un peu plus.
Madame Koulibaly, je suis animatrice radio-télé.
C'est vous qui avez présenté le début de ce défilé?
Tout à fait. C'est vrai qu'il y a de grands rendez-vous dans la sous-région, mais les rendez-vous d'Abidjan ont quelque chose de spécial. Tous les créateurs vous le diront, quand on vient à Abidjan présenter une collection, soit ça passe, soit ça casse quoi. Et généralement, je pense que c'est pour cela qu'ils sont nombreux à répondre aux invitations, aux sollicitations ivoiriennes. Et c'est tout bénef pour la culture en Côte d'Ivoire. La mode africaine part d'Abidjan.
Et alors ici à Abidjan aussi, on le sait, hein, les gens aiment bien se saper.
Et de plus en plus, il faut dire qu'aujourd'hui à Abidjan, l'élégance est variée. C'est-à-dire qu'on a le costume classique, on a les tailleurs pour les femmes et tout ça, mais il y a cette tendance à rajouter du pagne, à faire du pagne la matière première du vêtement, et ça donne beaucoup de couleurs, ça donne des formes pas possibles, c'est beaucoup de créativité qu'on met en jeu quand on utilise le pagne. Donc Abidjan, ça part d'ici, la mode africaine.
Abidjan, capitale de la mode africaine, une formule peut-être un peu excessive, Charlie, non ? Mais il y a aussi du vrai là-dedans.
Oui, mais le prêt-à-porter africain, encore produit dans de faibles quantités, peine encore à se faire connaître. Il y a peu de revendeurs, donc peu de visibilité. Il existe bien une boutique, l'Espace Etika, dans la galerie d'un hôtel d'Abidjan. On y trouve une soixantaine de marques et la fondatrice Karine Tano nous ouvre les portes. Bonjour.
Bonjour.
Donc l'Espace Etika, premier espace qui a été ouvert en Afrique de l'Ouest, qui a été ouvert en 2009. Alors, de ce côté-là, on retrouve donc la partie vêtements hommes, c'est-à-dire des chemises et des tuniques qui sont faites en Côte d'Ivoire. 100% des produits que vous trouvez ici sont fabriqués en Côte d'Ivoire, mais pas avec du coton ivoirien.
Comment ça se fait ?
Il existait jusqu'à il y a quelques années des usines de transformation de coton. La plupart étaient à Boaké, où il y a eu la crise en 2002. Comme les usines sont à l'arrêt, eh ben, le coton qui est produit en Côte d'Ivoire est exporté.
Donc là, c'est une chemise bleue qu'on voit ?
Tout à fait, c'est une chemise bleu marine. Et donc, au niveau de l'encolure du coude et du poignet, on va voir donc du tissu imprimé, avec des motifs africains.
Voilà. Des spirales, bleu, beige.
Voilà. Et la tendance aujourd'hui est plutôt aux vêtements ethniques, c'est-à-dire qu'on part sur des coupes européennes et on incruste justement des petits motifs. Donc ça va être du wag, ça va être du tissé, ça va être du bogolan. D'abord c'est une tendance et ensuite c'est une manière aussi de réduire les coûts.
Votre boutique est dans un quartier assez chic, le quartier du Plateau, un quartier administratif à Abidjan. Quelle est votre clientèle ?
Quand on a commencé, c'était vraiment des clients de la sous-région qui n'ont pas justement ce genre de produits chez eux. Et en fait, depuis 2 ans, on commence à avoir vraiment des personnes locales qui vivent ici et qui viennent de manière régulière. Et ce sont des cadres. C'est-à-dire, en fait, avant, les dames s'habillaient essentiellement en pagne. C'est-à-dire, c'était du 100%. Donc, c'était des coupes larges pour camoufler les formes. Mais le pagne faisait mémère. Alors que maintenant, à l'école, les filles s'habillent avec des shorts en wax, elles ont des t-shirts, des hauts avec du wax, des robes de ville, des robes beaucoup plus près du corps, être chic avec une petite touche africaine. En fait, c'est ça, je pense, que tout le monde recherche. Bonjour.
Madame.
Vous connaissez déjà la boutique, vous êtes client ou c'est la première fois ?
C'est la première fois et c'est mon premier voyage à Abidjan. Alors, je vis en France.
D'accord.
Je suis sénégalais d'origine.
Ah, d'accord.
C'est très très joli.
C'est joli, hein.
Alors, c'est quoi comme tissu ?
Alors, c'est du basin.
Qu'est-ce que vous recherchez, vous, pour vous habiller ?
Pour avoir vécu longtemps en Europe, je me suis habitué aux vêtements européens, mais je suis content de voir qu'en Afrique, on fait des choses beaucoup moins typées, mais qui en même temps font ressortir le côté africain. Et j'avoue que si je trouve mon bonheur, je préfère faire travailler les gens d'ici.
Il y a un miroir ici, vous pouvez venir.
Ça, c'est une grande taille, ça.
Alors ça, voilà, alors ça aussi, voilà, c'est le problème, c'est que certaines marques ont du mal à mettre les tailles.
Écrites sur l'étiquette.
Voilà. Donc on ne sait pas si c'est du S, du M, du L, donc le marché existe, on peut réaliser certaines choses, mais il faut maintenant travailler de manière professionnelle avec des étiquettes. Si les fabricants veulent rester uniquement au niveau local ou dans la sous-région, je pense que dans l'État, ils peuvent, parce que le marché n'est pas exigeant. Mais à partir du moment où on commence à parler export, vente sur des marchés américains ou européens, là, on n'est pas du tout prêt.
Alors, Charlie,
Camille Dupiot, est-ce que le client a fini par acheter le pantalon qu'il essayait dans la boutique de Karine Tano?
Alors oui, mais il va certainement devoir le faire retoucher une fois rentré chez lui. Ce n'était pas vraiment à sa taille. Alors il y a aussi le problème du prix de ce prêt-à-porter qui est souvent élevé. Pour l'instant, les créateurs sont loin d'être compétitifs. Ça s'explique par leur coût élevé de production. Et certains ont même renoncé au Made in Côte d'Ivoire. C'est le cas de ce créateur Alain Niava. En 2005, la compagnie aérienne nationale de l'époque lui commande 400 uniformes pour ses hôtesses de l'air et ses stewards. En 3 mois, clairement, c'était infaisable vu l'état de l'industrie textile en Côte d'Ivoire. Impossible chez les grossistes de trouver 1000 mètres de tissu du même coloris. Faute de formation du personnel, les vestes réalisées sont rarement à la bonne taille. Bref, Alain Niava ne peut produire qu'un cinquième de la commande qui lui a été faite. Donc il lui reste une seule solution, délocaliser très vite en Chine, où la commande est terminée en seulement 3 semaines. C'est le début de toute une aventure. On visite son atelier attenant à sa maison dans la commune de la Riviera Palmeraie à Abidjan. Il a maintenant 16 employés.
Sur le côté droit, il y a le bureau. Sur le côté gauche, commence le showroom. Vous avez un showroom d'à peu près 120 mètres carrés où vous avez des portants qui portent les collections de chaque entreprise.
Ce qu'on voit aussi dans votre atelier, c'est qu'il y a beaucoup de cartons avec des inscriptions en chinois.
Ici, généralement, les gens m'appellent le chinois parce que j'ai vraiment exploité la Chine depuis 8 ans. Nous avons une collection pour une compagnie aérienne. Par exemple, là, vous avez une veste homme dont les boutons sont frappés à l'effigie de la compagnie. Elle est de couleur verte, avec une finition remarquable, ce pourquoi je me déplace à l'étranger pour pouvoir faire la finition. Comment est-ce que la finition se présente? Comment les boutons sont montés? Et tout ça, c'est ça qui représente une bonne finition. Et ça saute aux yeux et ça fait la différence avec un élément monté localement. Localement, malheureusement, nous n'avons pas les outils pour pouvoir le faire et la formation. C'est produit en Chine. Il faut pas se voiler la face. La Chine s'est imposée à nous. Quand je dis à nous, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus le seul qui le fait. Beaucoup de personnes m'ont emboîté le pas.
Vous avez donc, à partir de 2005, décidé de produire ailleurs, en Chine d'abord. Délocaliser sa production, c'est ne pas créer d'emplois en Côte d'Ivoire.
J'ai eu donc la critique de mes pairs dans le secteur. Ils me disaient que j'enlevais le pain de la bouche aux locaux, aux tailleurs locaux, que je ne créais plus d'emplois et que j'emportais le travail ailleurs. Donc c'est comme si c'était une forme de trahison. Ça, on me l'a dit vertement. Mais je ne peux pas produire tout ici, parce que je vais perdre de l'argent. Et si j'étais resté ici, j'étais encore à faire une deux robes de mariée ou un deux costumes. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc ça m'impose systématiquement de voyager. J'arrive avec les patrons, les échantillons, et donc généralement une commande qui varie de 300 à 4000 pièces est bouclée en 3 semaines. Et actuellement, je change de cap, je les produis en Turquie. Pour des problèmes de normes. Et quand on n'y fait pas attention, on se retrouve avec des commandes ratées qu'on est obligé de corriger.
Vous avez déjà eu des commandes ratées en Chine?
Plus d'une fois. Et à certains moments, vous vous retrouvez avec des manches plus courtes ou carrément des vestes qui sont trop courtes. Mais il y a des commandes où on a dû carrément mettre à la poubelle. Le standard chinois ne correspondant pas au standard international, ils sont plus petits, donc ils travaillent plus en fonction de leurs normes à eux. Quand on ne les suit pas et qu'on n'est pas derrière pour contrôler en permanence, ils peuvent vous troquer les tissus. C'est après le premier ou le deuxième lavage qu'on va se rendre compte que le tissu n'est pas ce qu'on a choisi véritablement. Sans compter que, malheureusement, en Chine, on n'a pas de recours quand une commande est ratée. Et donc, comme je dis, moi je suis aujourd'hui un homme d'affaires, je cherche la rentabilité et c'est ce qui m'amène à chercher toujours à améliorer mes sites de production. Et le créateur ivoirien, voire africain, n'arrête pas de créer pour une seule pièce. Même si on fait des déclinaisons de temps en temps dans des modèles, on rajoute une manche, on enlève une manche et tout ça, ça fait trop de boulot. Le patronage qu'on fait pour une création n'est rentabilisé que pour une vente. Alors que, ailleurs qu'en Afrique, un patronage, une création, est décliné en 3000, voire 5000, voire plus. Et c'est ça le vrai business.
La mode, un business, et certains pays comme le Nigeria et le Ghana, bien sûr, l'ont bien compris. Après le flash, nous verrons comment la Côte d'Ivoire peut emboîter le pas derrière les voisins qui réussissent. Restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash.
Hey. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous parlons de l'avenir de la filière textile en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Avec votre reportage, Charlie Dupio. La plupart des PME du secteur sont encore à l'état vraiment embryonnaire, on l'a compris. En Côte d'Ivoire, elles sont seulement une dizaine à se partager le marché. Elles emploient au total 2000 salariés. Malgré la réputation de la mode ivoirienne sur tout le continent, en cause, eh bien, d'abord la crise de 2002 qui a particulièrement frappé la région du coton dans le nord et dans le centre, la région de Boaké. Depuis, c'est toute une industrie qui est laissée à l'abandon. Et ailleurs dans le pays, les quelques entreprises textiles existantes n'ont pas rouvert après la crise. Alors comment rattraper ce retard accumulé, surtout par rapport à des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, qui ont fait le choix d'une politique industrielle volontariste pour développer la filière? Et puis, quelles leçons à tirer de ce modèle à l'anglo-saxonne pour conquérir de nouveaux marchés? Charlie Dupio, vous avez rencontré un grand nombre de créateurs de mode à Abidjan.
Des créateurs qui souvent, à leur début, ne s'imagine pas en chef d'entreprise. Pourtant, il est impossible de se lancer sans établir un business plan, sans savoir gérer ses stocks, sa comptabilité. Et souvent, faute de salariés qualifiés, ces créateurs doivent eux-mêmes participer à la fabrication des vêtements et puis bien sûr encadrer leur personnel au sein de l'atelier. Cette double casquette, hein, Passy, jeune créatrice, a eu du mal à l'endosser. C'est une très jolie fille, taille mannequin, en jean slim. Diplômée en droit à Paris, c'est ce qu'on appelle une repatte. Rentrée au pays, elle s'est lancée en fait dans le textile il y a 10 ans. Elle est dans son atelier en pleine confection, au milieu des jupes et des robes en jean avec des touches de wax jaune, rouge, bleu, surtout des vêtements pour femmes.
Chez quel patron on va faire des corrections?
La jupe mini.
Et sur les shorts, on doit aussi faire des gradations en 34.
Oui.
Tous les patrons qui sont là, en fait, c'est tous les cartons, tous les patrons de tous les modèles qu'on fait ici. C'est à partir de ces patrons qu'on va faire les vêtements.
Ça donne la forme, en fait, de chacun des modèles.
Exactement, voilà. Et ensuite, on le reporte sur un tissu et on le met à la production et c'est beaucoup plus pratique. Pour ce qui est du prêt-à-porter, il n'y a pas beaucoup, finalement, d'unités de production où on va travailler sur patron. Il faut trouver quelqu'un pour faire les patrons. C'est-à-dire, vraiment, j'aurais besoin de quelqu'un à temps plein. En réalité, il n'y en a quasiment pas. Et le peu qu'il y a demande un salaire quand même élevé. Ce que je comprends, parce que c'est une formation de bac plus 4 à plus 5. Quand on rentre dans une démarche de prêt-à-porter, on rentre aussi dans une démarche de qualité. Il faut regarder dans les moindres détails. Il faut vraiment être pointilleux. Il faut pouvoir inculquer cet état d'esprit à son personnel, parce que les gens sont habitués à faire vite fait. C'est vraiment une démarche qui commence maintenant. Il faut qu'il y ait des personnes qui vont s'intéresser qu'au patron, d'autres qui vont s'intéresser qu'au stylisme, d'autres au modélisme, qu'il y ait tous les corps de métier en fait dans la profession pour le prêt-à-porter.
Il y a des écoles alors ici par exemple à Abidjan?
Oui, il y a des écoles. 3 ou 4, mais bon. Les formations sont plutôt générales. Elles ne sont pas spécialisées, mais ce qui est normal, c'est logique qu'il n'y ait pas de main-d'œuvre en ce moment parce qu'il n'y a pas de débouchés. Donc, ce n'est pas des choses qui intéressent même les jeunes, alors que c'est, je pense que c'est un secteur qui est porteur, qui peut donner beaucoup de travail. Voilà, on voit de la mode. En fait, on nous met tous dans le même sac. Il y a tellement de couturiers en Côte d'Ivoire. Donc, quand je me présente à la banque, on voit une couturière qui coud les habits des gens, alors que ça n'a rien à voir. Moi, je veux vraiment créer une entreprise de prêt-à-porter. J'ai une vision, en fait. Je ne veux pas me cantonner à ce que je fais. J'espère que dans 10 ans, j'aurai plusieurs boutiques, j'exporterai. Enfin, voilà.
Exporter où?
Déjà en Afrique, chez mes voisins directs. En Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, où je vois que la mode vraiment bouge beaucoup. Dans mon cas, je fais partie d'un consortium, par exemple, un consortium d'exportation où on est 5 créateurs. On pourrait éventuellement se mettre ensemble pour faire un certain nombre de pièces. Mais toujours, si c'est 10 000 pièces ou 5 000 pièces, on me dit à livrer dans 2 semaines, je ne sais pas. À un moment donné, je me suis dit la Chine, mais bon, c'est vraiment trop loin, ils vont me demander trop de quantité. Mais je me suis dit, si jamais l'opportunité m'est donnée vraiment d'avoir une grosse commande, éventuellement, en Afrique du Nord, il y a de grandes marques qui sous-traitent dans ces pays-là, donc pourquoi pas, au moins on reste en Afrique. C'est au moins Made in Africa, à défaut d'être Made in Côte d'Ivoire. Ça me soulage quand même, mais bon, j'espère qu'un jour on pourra dire 5000 pièces, allez, dans une semaine, il n'y a pas de problème, Made in Côte d'Ivoire.
Charlie Dupio, quelle volonté politique pour ce Made in Côte d'Ivoire ?
Alors, bonne question à laquelle il est difficile de répondre. Le ministère de l'Industrie a commandé une étude sur l'état du secteur à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en 2013. Signe peut-être d'un intérêt nouveau. L'ONU dit l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a mis en place un programme, le programme PASIR, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, financé par l'Union européenne. Le but, réfléchir à comment dynamiser un cette filière textile, et certaines pistes de ce programme semblent avoir séduit le gouvernement. Karine Tano, qui gère la boutique de prêt-à-porter Etika, est aussi présidente de la Fédération ivoirienne des industries textiles, de l'habillement et des accessoires de mode.
Le gouvernement travaille sur la stratégie de relance du secteur textile. On a été entendu, ça passe par la transformation du coton. À Boaké, il y a certaines usines qui ne tournent pas, qui devraient être remises en route, de telle sorte que les fabricants puissent approvisionner au niveau local. Il y a une étude qui a été menée pour identifier le produit, the product, celui qui marche le plus et qui pourrait se vendre sans problème. Il semblerait que la chemise soit un produit intéressant, de telle sorte que la Côte d'Ivoire soit reconnue pour ses chemises. Ils partent sur un modèle beaucoup plus grand, c'est-à-dire sur vraiment les grandes usines de confection qui seraient implantées sur des zones franches dans le pays, San Pedro, Yamoussoukro, Boaké.
Des zones franches où les impôts seraient moindres pour les entreprises.
Tout à fait. En tout cas, il faut attirer, il faut séduire, il faudra vraiment faire la cour aux investisseurs. Vu les études de benchmarking qui ont été menées, à mon avis, le Maroc semble être bien placé pour pouvoir investir ici, pour profiter d'une main-d'œuvre moins chère. Il est prouvé que la Chine devient de plus en plus chère au niveau main-d'œuvre et qu'en Afrique, on est compétitif. Donc, ils sont en train de prendre conscience, je parle du gouvernement, que vraiment, c'est un secteur à relancer et que ça va générer beaucoup d'emplois. Pour moi, l'avenir est prometteur, ne serait-ce qu'en utilisant la GOA. La GOA qui est en fait un permis nous permettant, nous, pays africains, d'exporter aux États-Unis sans taxes, sans droits de douane. Donc c'est quand même 20% à 30% en moins sur le prix du produit arrivé là-bas. Donc c'est une opportunité qu'on n'a pas encore exploitée en Côte d'Ivoire. Alors qu'au Ghana, je veux dire, depuis 10 ans, ils utilisent la GOA. Donc au Ghana, aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine d'usines de confection. C'est-à-dire le gouvernement a construit des usines, il loue les usines aux entrepreneurs. Donc moi, je ne demande pas autant au niveau de la Côte d'Ivoire.
Mais un pays moins développé que le Ghana.
Voilà, moins développé, mais qui est quand même des actes concrets, quoi. Le Ghana, c'est la porte à côté. Donc si ça marche au Ghana, c'est que ça peut marcher en Côte d'Ivoire. Les promesses du gouvernement doivent être réalisées. C'est-à-dire qu'il nous faut nos zones franches et que ces investisseurs étrangers, s'ils viennent, utilisent la main-d'œuvre locale. Le taux de chômage est très très élevé. Maintenant, il va falloir faire du lobbying auprès du gouvernement et les inciter justement à ce que les décisions qui sont prises ou les projets sur lesquels ils travaillent deviennent des réalités. Et j'y crois. Ils n'ont pas le choix de le faire, puisqu'en fait, ils sont confrontés au problème du chômage et qu'ils veulent créer des emplois. Donc, ils sont obligés de chercher pratiquement dans tous les secteurs. Ils seront obligés de passer par le textile. Mais à mon avis, ça va se faire. Oui.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, reportage en Côte d'Ivoire sur cette fameuse industrie textile encore très balbutiante avec votre reportage Charlie Dupio. Alors, ce textile peut-il créer des emplois en Côte d'Ivoire ?
Oui, 30 000 dans les 10 prochaines années et plus encore si la filière continue à s'industrialiser. C'est ce que prédit en tout cas l'ONU dit dans une étude datée de 2015. À titre de comparaison, le textile est le premier employeur industriel au Maroc. Il faut dire que le gouvernement marocain investit massivement dans ce secteur depuis 40 ans. longtemps. Pour l'instant, la volonté politique du gouvernement ivoirien reste à prouver. Quels moyens, quelles initiatives concrètes? Et le problème est le même au Cameroun, où certains créateurs exigent une intervention de l'État, sans laquelle la mode restera pour eux l'enfant pauvre de l'économie. En attendant, ils organisent des festivals à Douala, Yaoundé, comme ce trentenaire, lunettes à grosse monture noire, nœud papillon rouge et pantalon slim.
Fatou Manga, je suis designer et je réside à Paris, je suis d'origine camerounaise. C'est du prêt-à-porter chic, simplement, plutôt axé en...
Certains croient qu'il faut, pour vendre du prêt-à-porter, notamment dans la sous-région Afrique de l'Ouest, qu'il faut miser sur le côté un peu africain, comme on dit, ethnique. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ?
Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Moi, je m'écarte de tout ce qui est connotation, tout ce qui rentre dans des cases. Parce que quand une grande maison qui a pignon sur rue, sur place, utilise ces tissus, on dit c'est la mode ethnique. Quand vous vous présentez à quelqu'un, vous lui dites vous êtes designer, il vous demande si vous êtes designer africain. Moi, je lui demande pas s'il est designer européen ou pas. Et même, pour vous dire, ça ne parle pas de ma génération. Moi, j'ai pas grandi dans ça.
Comment s'habille votre génération au Cameroun, par exemple? Comment on s'habille?
Voilà, ma génération, elle est plutôt portée par tout ce qui se fait à l'Occident. Si je, moi, personnellement, dans ma génération, je connaissais plus d'un qui était habillé avec des tissus ethniques, je vous le dirais. Mais non, moi, je suis né au Cameroun.
Vous avez la trentaine?
Oui, mais quand je parle de ma génération, on est connecté. Et je connais beaucoup de personnes, quand ils veulent sortir, ils mettent un costume, ils ne vont pas forcément avec le tissu.
Il n'y a pas de marché pour ça?
On le saurait. On a bien des illustres aînés qui font ce travail-là depuis pas mal de temps. Si c'était le cas, s'ils en vendaient des millions, je le saurais. Qui achète? Qui achète? Il n'y a pas un public, je ne vois pas ce public.
Qui pourrait acheter ce que vous produisez, à savoir des vestes de costume plutôt chères?
Ouais, mais sauf que moi, je m'inscris dans une logique où il y a une classe moyenne en Afrique très, avec un gros potentiel. Et la plupart des grands dirigeants, des cadres de société voyagent tout le temps et s'accommodent aux habitudes vestimentaires de l'Occident.
Vous visez une clientèle urbaine.
Voilà. Et pourquoi pas développer cette industrie-là dans mon propre pays, à moi, qui est le Cameroun? Pour l'instant, je ne vais pas mentir, ce n'est pas le cas. Parce que tout est au niveau des prémices là-bas. Les gens n'ont pas pris conscience que le métier de la mode peut être un facteur de développement important. Si vous prenez les pays comme le Sri Lanka, le Vietnam, tout un pan d'industrie, ils vivent, beaucoup vivent pas, parce que les grandes maisons viennent leur faire fabriquer des choses. Et donc, il serait temps qu'un jour, et ça c'est ma seule revendication quand je me retourne vers les politiques, il serait temps qu'ils pensent aussi à cette politique-là, de plantation des usines qui permettront aux gens d'avoir cette main d'œuvre qui est là et à bon marché.
c'est le congolais Géobilongo. C'est un mot yougou-yougou qui désigne la friperie dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Charlie Dupio.
Oui, sur le continent africain, plus d'un quart des vêtements que l'on porte vient de la friperie. Une rude concurrence pour les vêtements fabriqués localement. Dans les années 90, l'arrivée de ces vêtements d'occasion ou fin de série a même causé la fermeture de plusieurs usines. Bilan, des milliers d'emplois supprimés. Le succès de la fripe n'est en tout cas pas prêt de s'arrêter en Côte d'Ivoire. Il suffit d'aller sur les marchés pour le comprendre, et notamment dans le grand marché de la capitale économique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous tenez ce qu'on appelle une friperie, donc un étal sur le marché d'Adjamé.
Voilà, sur le grand marché d'Adjamé, au niveau du Carrefour Saint-Michel. Voilà, je tiens les habits des friperies. Les friperies qui sont vendues ici, c'est les habits qu'ils ont déjà utilisés. On les emballe, ils viennent ici, et puis nous, on les reprend. Il y a d'autres qui ne sont pas portés, il y a d'autres qui sont dans les magasins. C'est des fins de série qui viennent avec les étiquettes.
Alors, on voit des vestes de toutes les couleurs.
Ouais, toutes les couleurs, là. Cette veste-là, elle vient de la Chine. Ça fait un peu tendance.
En voilà. Jean noir. Et puis, vous avez surtout des vestes de bureau.
Voilà.
Celle-là, par exemple, elle vient d'où? Voilà.
Ouais, celle-là, elle vient de Corée. Ils ont les jolies coupes. Avec deux galons sur les épaules. C'est la rouge, là. Elle a été déportée. Et ça, les tasses dessus.
Ah, y a déjà des taches sur certaines.
Voilà, ça a été déporté. Donc, on a des clientes qui travaillent dans les bureaux, par exemple au plateau.
Dans le quartier administratif.
Dans le quartier administratif du plateau, voilà. C'est ça. Il y a d'autres qui travaillent dans l'administration. Mais c'est cash pour venir payer. Non, c'est pour ne pas qu'on chasse, qu'elle vient payer moins cher.
Vous les achetez combien, vous, ces vestes-là?
Bon, ça dépend. On les achète à 5 000 francs. 7 euros, voilà, en les revend à 8 000 francs, 7 000 francs, ça dépend du client.
Wow. Où est-ce que vous les trouvez, ces vestes-là?
En Europe, ce qui a été porté, on a des frères africains qui sont là-bas, ils s'occupent de ça. Maintenant, il y a les dons pour l'Afrique. Bon, il y a d'autres qui profitent pour emballer ça, pour nous envoyer, puis on paye.
Il y a des habits déjà portés, oui, que certains vont donner aux associations, par exemple?
Oui, bien sûr, aux associations caritatives. Le plus souvent, ça vient de ça. C'est un réseau de commerce.
Vous avez une cliente? Bonjour, chef.
Ouais, bonjour, mon chéri.
Combien coûtent ces vestons-là?
Ces vestons à 7000 francs.
7000. Est-ce qu'on peut pas diminuer juste un peu? Là, vous êtes en train d'acheter des vestes, madame?
Oui, j'achète des vestes. Je suis assistante de direction. Donc, ces tenues sont demandées au bureau. Par rapport au magasin, on préfère en prendre ici parce que ça ne coûte pas trop cher. Avec ces fournisseurs-là, il y a des vestes de marque, vraiment de bonnes vestes. Les marques françaises, allemandes, vraiment tout. Donc je préfère en prendre ici.
Et alors là, par exemple, vous portez une jupe violette avec un haut noir et beige. Ça vient d'où?
Ici également. C'est avec eux que moi je m'habille. Je n'en prends pas ailleurs, c'est avec eux que je m'habille.
Et s'il y avait des marques ivoiriennes, vous achèteriez?
Bien sûr, on peut consommer ivoirien, mais il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas encore vu. C'est que des couturiers, mais avec les couturiers, vraiment, c'est souvent raté. Ça ne prend pas bien la forme. Trop de rendez-vous et plusieurs retouches ne nous arrangent pas du tout. Par contre, je connais ma taille. Je sais que je fais de la taille en L. Quand j'arrive, je leur dis, ah, j'ai besoin d'une taille L. Il me sort automatiquement, ça passe, quoi. J'envoie au pressing, je les lave tranquille. Ça fait du bien, quoi, quand tu es bien mise.
Je suis Kadi. Les friperies, en tout cas en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, que ce soit des pauvres, des femmes riches, des hommes riches, tout et tout, tout le monde l'utilise. Moi, par exemple, 40 à 60% de mes vêtements sont de la friperie. J'ai pas honte de le dire parce que je gagne au moins 130 000 francs par mois. 130 000 francs par mois, hormis mon loyer, mon transport, la nourriture, ça peut pas me permettre de payer de prêt-à-porter tout le mois. Mes collègues le savent, je ne le cache à personne. Bien s'habiller à Abidjan, c'est un challenge pour tout le monde.
Salaire de 130 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire l'équivalent de 200 euros. Évidemment, on comprend l'attrait de la friperie. Qu'en est-il au niveau régional? Que fait l'Afrique de l'Ouest, Charlie, pour dynamiser le secteur textile?
C'est une question qui se pose d'autant plus que la production de coton atteint des records historiques dans la sous-région cette année. Écoutez le point de vue de ce commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui regroupe 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et qui est basé au Burkina Faso. Guy Amédé Ajanou Boun est donc en charge du département du développement de l'entreprise, de l'énergie et du tourisme. Pour lui, la priorité, c'est de se réapproprier la matière première.
En 2003, la réflexion au niveau de la région était de faire en sorte que le coton qui devenait la production la plus importante dans notre région, depuis le Sénégal jusqu'au Bénin, puisse être une source de croissance accélérée pour la région. Et pour le faire, il faut lui donner de la valeur ajoutée, avec comme objectif principal de porter à 25% le taux de transformation de la production du coton dans la sous-région.
Aujourd'hui, quel est le pourcentage de transformation du coton en Afrique de l'Ouest?
3%. On n'est pas parvenu à donner au coton toute la place qu'il mérite, mais il y a aussi à se soutenir une demande locale qui devient de plus en plus importante.
Pour vous, il faut d'abord transformer le coton, c'est la première priorité, et ensuite on verra pour éventuellement une industrie textile.
Il faut savoir que dans la formation du PIB dans la région, plus de 30% est faite par la production du coton. Aujourd'hui, la population active est impactée dans la région à près de 60% par la filière coton. Si nous n'avons pas d'infrastructures routières et portuaires dans nos régions, on n'a pas d'industrie. L'accès à l'énergie est un facteur déterminant. Et c'est sur ça que nous nous concentrons aujourd'hui pour développer toute l'industrie, et notamment l'industrie textile.
On est donc loin à l'UMOA, en tout cas, de réfléchir à une véritable industrie textile. Et pourtant, des pays comme le Ghana, juste à côté de la Côte d'Ivoire, ont une longueur d'avance. Alors, comment font ces pays-là?
Alors, en 95, les autorités ghanéennes comprennent les risques d'une économie qui est basée seulement sur l'agriculture. Ils adoptent une loi, le Ghana Free Zone Act, pour établir des zones franches, sans droit de douane ou de taxes sur les importations et les exportations. Et puis, il y a eu, donc toujours au Ghana, on en a parlé, l'adoption de l'AGOA dès 2000, cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique, accord dont Accra a pleinement profité. Aujourd'hui, le textile au Ghana est l'un des principaux secteurs de l'industrie, avec l'agroalimentaire et les matériaux de construction. Et puis, il y a aussi l'exemple du Nigeria, où le secteur est soutenu par l'État. J'ai rencontré une créatrice de mode nigériane, invitée au festival Nzassa à Abidjan. Pour elle, le Nigeria peut aller encore plus loin.
Je m'appelle Ejiro Amostafiri. Je crée des tenues de soirée, j'ai une ligne de prêt-à-porter, je fais aussi du sur-mesure. Je ne dirais pas que c'est facile, nous avons beaucoup d'usines de prêt-à-porter au Nigeria, donc beaucoup de marques dans ce secteur. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas compter sur une alimentation régulière en électricité. Certaines régions n'ont pas d'électricité pendant 2-3 jours, voire une semaine. Donc, comme on n'a pas accès à l'électricité en permanence, on génère notre propre énergie avec des générateurs. Mais vous savez, on s'en sort, et au Nigeria, on est très porté sur la mode. Donc, la demande est là. Il y a un créneau à combler dans le marché, et c'est ce que fait le secteur nigérian de la mode.
Vous dites qu'il y a beaucoup de demandes pour ce prêt-à-porter-là. Alors, comment veulent s'habiller les Nigérians?
Les Nigérians aiment le luxe, la couleur, les choses de qualité, celles qui sont belles, lumineuses et qui brillent. À un moment, les Nigérians aimaient acheter à l'étranger, surtout aux États-Unis et en Europe. Mais aujourd'hui, ils se tournent vers les produits nigérians, et on peut donc se permettre de les vendre à des prix plus élevés. Car les gens se sentent proches de la personne qui a créé le vêtement, quelle qu'elle soit. Ils adorent le made in Nigeria, et cela se vend partout sur la planète. J'ai des commandes venant du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, surtout dans la diaspora africaine. Beaucoup achètent nos produits. On peut aussi compter sur la croissance rapide de ce marché sur Internet. La culture du shopping en ligne grandit très vite. Il y a Jumia, Konga et un grand nombre d'autres plateformes. Et puis les créateurs tiennent eux-mêmes leur propre plateforme de vente en ligne. Si ça continue, tout ça deviendra une industrie tellement énorme.
En général, le problème du prêt-à-porter africain, c'est qu'il se vend à des prix trop élevés par rapport au reste du prêt-à-porter. Est-ce que c'est le cas au Nigeria?
Quand il faut soi-même fournir sa propre source d'électricité et en quelque sorte tout faire soi-même, prendre en charge ses dépenses de transport, le coût d'entretien de sa voiture, puisque l'état des routes est mauvais, les coûts de production sont sans aucun doute plus élevés. Le prêt-à-porter au Nigeria est déjà très développé, mais il va encore se renforcer dès que les problèmes d'électricité et d'infrastructures de base seront résolus. Nous espérons une plus grande intervention, une plus grande participation du gouvernement. Et alors nous pourrons élever cette industrie à un rang mondial comparable à celui de la Turquie ou de la Chine. Car nous avons la population, nous avons la main d'œuvre. Donc c'est quelque chose qui est possible au Nigeria.
Bon, alors, Charlie Dupiot, faut-il aller vers le modèle anglo-saxon ? L'exemple nigérian est-il le modèle à suivre pour la Côte d'Ivoire ?
À voir. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est 23 millions d'habitants. Le Nigeria, 170. Donc, ce n'est pas la même demande locale. Mais en Côte d'Ivoire, le réseau d'électricité connaît certes moins de problèmes que le Nigeria, et même d'ailleurs par rapport au reste des pays de la sous-région. On pourrait plutôt comparer la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Les deux pays disposent de ports, hein, d'où il est plus facile d'exporter. Le gouvernement ivoirien pourrait aussi choisir d'attirer des investisseurs dans des zones où ils bénéficieraient d'avantages fiscaux. C'est une piste que recommande l'ONUDI, parmi d'autres. Baisse des taxes sur le matériel importé, contrôle des contrefaçons sur le marché intérieur, et puis bien sûr, tout au début de la chaîne de production, la remise en état des usines de filature du coton. Malgré tout, même les modèles nigérians et ghanéens ne sont pas inébranlables. Ils sont confrontés aujourd'hui à la concurrence des vêtements chinois. Au Nigeria, les usines de textiles ont fermé les unes après les autres à cause de coûts liés aux coupures d'électricité, par exemple, à cause aussi de l'insécurité dans l'or du pays. Alors, quel modèle l'Afrique de l'Ouest choisira-t-elle pour son textile ? La réponse, certainement dans les années à venir.
Voilà, et bien sûr, nous suivons le dossier. Merci pour votre reportage, Charlie Dupiot, à la réalisation Boris Vichit. Demain, 7 milliards de voisins, comme un prolongement à cette émission, finalement, la parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique. Avec les conseils du coach Didier Akwété, appelez-nous dès maintenant, quels que soient vos projets, à condition bien sûr qu'ils soient assez élaborés tout de même, ou si votre entreprise a du mal à démarrer, 33 1 84 22 71 71, ou bien par mail, 7milliards@rfi.fr. À demain avec Didier Akwété, le coach.